Europe Midi, François Claus.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans le journal de la mi-journée. Faudra-t-il tester systématiquement dans les prochaines heures tous ces chauffeurs routiers bloqués de part et d'autre de la frontière britannique depuis la fermeture et la suspension de toutes les liaisons? Quels sont les risques réels de pénurie, de rupture dans les chaînes de distribution des produits? Nous allons vous répondre à toutes ces questions dans un instant, alors que gouvernement britannique et français discutent en ce moment même pour tenter de trouver un accord. Comme un Brexit grandeur nature avant l'heure, finalement, la crise sanitaire vient-elle définitivement ruiner les espoirs d'un compromis de dernière minute? Peut-elle au contraire agir comme un révélateur? Quelle est la part de bluff politique à une semaine de l'échéance? Le grand spécialiste des questions européennes, co-auteur du livre Le pays des Européens, le professeur Sylvain Kahn, est notre invité. Dans l'actualité de ce mardi 22 décembre, une répétition générale sur l'une des plateformes de distribution de vaccins, laquelle Europe 1 a assisté ce matin. Macron l'incompris qui veut mieux se faire comprendre et s'exprime longuement dans les colonnes de l'Express. Une gigantesque fraude fiscale et sociale démantelée dans le monde sauvage des VTC à l'aéroport de Roissy. Et puis, tout le foot français qui espère désormais tourner la page alors que le tribunal de commerce de Nanterre vient de valider le retrait de Mediapro.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais avant de développer cette actualité, il faut reconnaître, bien anxiogène, comme c'est le cas depuis de longs mois, comment ne pas revenir sur ce Noël avant l'heure pour l'historique gagnant de l'euro million en France du 11 décembre dernier. Rappelons-le, une somme de 200 millions d'euros gagnés, somme jamais atteinte dans l'histoire des Jeux en France. Le gagnant, on le comprend, on veut rester anonyme, mais la Française des Jeux, et on la comprend, laisse fuiter quelques infos. Il s'agit d'un retraité dans le sud de la France, et pour que l'histoire soit vraiment belle, un retraité qui compte bel et bien partager son gigantesque pactole pour la bonne cause, Yasmina Katou.
Et oui, le nouveau multimillionnaire devrait faire des dons au secteur de la santé. Une bonne nouvelle en pleine crise sanitaire. Le gagnant s'est confié sur ses projets à Isabelle Césari, responsable des grands gagnants à la Française des Jeux.
Les hôpitaux lui tiennent particulièrement à cœur il envisage même de créer sa propre fondation. Son objectif, c'est de donner à ceux qui n'ont pas eu de chance. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Pour moi, cet argent tombe du ciel. Il faut en faire quelque chose. Il est vraiment dans le partage.
Sur ces 200 millions d'euros, plusieurs dizaines de millions seront donnés aux hôpitaux, selon la FDJ. Et le retraité ne compte pas flamber dans les prochains jours. Un repas de Noël sans chichi est prévu avec sa famille.
Il y aura une volaille et puis peut-être un gibier, d'après ce que j'ai compris. Voilà.
Pas de homard pour un gagnant de 200 millions d'euros.
Ben non, puisqu'il change pas de menu. Donc, il me le disait encore hier au téléphone. Moi, je suis Monsieur Tout le Monde. J'ai des goûts simples et j'entends rester comme cela.
Et Monsieur Tout le Monde compte quand même se transformer en Père Noël et partager son pactole avec ses proches dans le besoin.
Merci Yasmina Katou. Retour à l'actualité du jour, un peu plus morose, et cette question, faudra-t-il tester systématiquement ces milliers de chauffeurs de poids lourds? À cette époque, rappelons-le, ce sont quelques 10 000 camions qui franchissent la Manche quand tout va bien. Des discussions sont en cours entre le gouvernement britannique et le gouvernement français pour tenter de résoudre cette inextricable situation depuis la brutale annonce du confinement londonien et de l'autre côté la suspension de toutes les liaisons vers le Royaume-Uni. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Alors ce gigantesque testing, c'est bel et bien une des solutions envisagées.
Oui, c'est ce qu'a confirmé la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel ce matin sur la chaîne Sky News.
Nous envisageons tout. Ces propositions font partie de nos discussions. Nous parlons avec nos homologues français. C'est dans l'intérêt des deux pays de retrouver du trafic. Et il y a des routiers européens qui aimeraient rentrer chez eux.
Rien n'a encore été dit sur la manière dont ces tests seraient menés, si bien sûr c'est la solution choisie. Selon la ministre de l'Intérieur, 650 camions sont toujours bloqués sur l'autoroute menant à Douvres, 800 autres attendent garés sur un ancien aéroport voisin. Mais le gouvernement a voulu rassurer les Britanniques. Selon le Premier ministre Boris Johnson, les camions routiers ne représentent que 20% des containers qui entrent ou sortent du Royaume-Uni chaque jour.
La grande majorité de la nourriture, des médicaments et des autres approvisionnements arrivent et partent comme d'habitude. Et comme l'ont dit les supermarchés, leurs chaînes d'approvisionnement sont solides, robustes. Donc tout le monde peut continuer à faire ses courses normalement.
Alors oui, les courses de Noël devraient être sauvées selon la grande distribution britannique, mais la chaîne de supermarchés Sainsbury's alerte déjà. Si la situation devait durer, alors il y aura une pénurie de produits frais périssables comme la laitue, les agrumes ou encore les choux-fleurs.
Alors on se pose la question également de l'autre côté de la frontière avec ces chauffeurs à bout de nerfs. Et Aurélien Fleureau, bonjour. Le risque également chez nous, c'est la pénurie dans certains domaines, des ruptures de chaînes de distribution et de produits dans d'autres.
Oui, François, c'est vraiment le pire moment possible pour le secteur de la pêche qui doit assurer cette semaine le traditionnel pic de commandes juste avant Noël. Des camions bloqués alors que les étals des poissonneries et dans la grande distribution sont prêts à être garnis de langoustines, de noix de Saint-Jacques, de lotte ou de saumon. Alors certes, toute la production ne vient pas du Royaume-Uni, mais la pêche écossaise est très attendue en ce moment et il y aura forcément des pertes selon Aymeric Chan, secrétaire général du syndicat des mareyeurs de Boulogne-sur-Mer.
Ce qui est particulièrement gênant, c'est qu'on est vraiment dans le coup de feu, là. Quelques heures de retard, on n'est pas au rendez-vous de Noël. Bon, c'est comme si on vous livrait des œufs de Pâques au mois de juillet, quoi. Si nos consommateurs veulent être certains d'avoir du produit sur leur table de Noël, faut peut-être pas trop tarder.
Alors, la relative bonne nouvelle de la matinée pour lui, c'est que des marchandises ont pu traverser la Manche sur des bateaux, mais évidemment sans les chauffeurs, hein, c'est ce qu'on appelle le fret non accompagné, qui a pu reprendre au compte-gouttes. Et désormais, le timing est très serré avec la logistique, la préparation des produits. Même si la situation se débloque demain, ce sera trop juste pour garantir 100% des commandes de Noël.
Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Dans le journal de 13h, nous reviendrons également sur la situation à l'usine, la grande usine automobile Toyota de Valenciennes, qui a décidé et qui a annoncé aujourd'hui que les chaînes seraient bloquées à partir de 13h45. Là aussi pour des problèmes d'approvisionnement dus à la fermeture des liaisons entre la France et l'Angleterre. Apparemment, il n'y aura en revanche pas de risque de pénurie du côté du vaccin. C'est un dispositif qui se met en place doucement au lendemain de la validation des autorités européennes. Un dispositif, on le sait, très particulier compte tenu des conditions de conservation de ce vaccin, moins 70 degrés et les 5 jours de viabilité, et qui vont être articulés en France autour de 130 plateformes dispatchées sur tout le territoire. Bonjour Jean-Jacques Héry.
Bonjour François.
Vous étiez ce matin sur Europe 1 sur l'une de ces plateformes, aux côtés du ministre de la Santé, Monsieur Véran. Racontez-nous ce test grandeur nature.
Eh bien écoutez, c'est une immense plateforme logistique où je me trouvais, spécialisée dans le stockage et la distribution de produits santé. Et toute la journée d'aujourd'hui consiste en un vrai test logistique. On vérifie si la chaîne d'approvisionnement fonctionne. Et c'est un essai à blanc en fait. Pour cela, des flacons vides, des faux vaccins sont arrivés très tôt ce matin depuis l'usine de fabrication en Belgique. Ils ont été immédiatement placés sur site dans des super congélateurs où la température descend à moins 80 degrés.
Donc là, vous allez l'emmener dans la chambre, dans la carboglace, en chambre froide.
C'est bon, oui.
Et une fois les vaccins sortis et la porte du congélateur refermée, eh bien ces vaccins, conditionnés en flacons de 5 doses, vont être transportés dans une chambre froide. Là, il fait entre moins 2 et 8 degrés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils commenceront à décongeler. Le temps sera alors compté, rappelle Olivier Véran, le ministre de la Santé.
À partir de ce moment-là, on n'a plus le droit qu'à 12 heures de transport et à 5 jours de stockage avant d'être distribué. Donc ça veut dire que chacun de ces vaccins, au moment où on les sort des congélateurs, il a déjà sa destination finale. Chaque vaccin est déjà alloué à un résident qui va recevoir le vaccin.
Direction donc un camion qui attend à l'extérieur, prêt à partir. Beaucoup de précautions sont prises. Les boîtes de transport sécurisées sont en polyuréthane, ce qui permet encore un peu plus de maintenir la chaîne du froid jusqu'au lit du patient qui se fera vacciner. On rappelle que la stratégie française, c'est de vacciner en priorité les résidents en EHPAD et ceux qui y travaillent. Ça représente environ 1 million de personnes.
Merci Jean-Jacques Héry. Au regard des incertitudes sur l'efficacité de ce vaccin face à la mutation du virus, le producteur BioNTech se veut rassurant et estime être en mesure de s'adapter, je cite, en 6 semaines à une mutation potentielle. L'Organisation mondiale de la santé s'apprête pourtant à réunir l'ensemble de ses membres pour évoquer une nouvelle stratégie. Et en Allemagne, le virologue star du pays, M. Christian Drosten, qui s'était montré très rassurant dimanche sur les conséquences potentielles de la mutation du virus, a fait marche arrière dans un tweet qui ne rassure pas le pays. Il affirme ce matin, je cite, que ça n'a pas l'air bon.
Europe Midi. François Claus.
Son isolement forcé ne l'empêche pas de communiquer et visiblement, il en ressent très fortement le besoin. Bonjour Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Bonjour François, bonjour à tous.
Emmanuel Macron vient d'accorder un très long entretien à nos confrères de l'Express et il balaye quasiment les 3 ans et demi qu'il vient de passer à l'Élysée.
Il dit notamment avoir compris que la France n'est pas un pays qui se réforme, à l'inverse de certains de nos voisins anglo-saxons, germaniques ou scandinaves. Nous sommes un pays qui se transforme, dit Emmanuel Macron. Il parle d'un pays perclus de passions contraires, de tensions créatrices, du fait en gros qu'on attendrait tout de l'État tout en le dénonçant à longueur de journée. Dans ce long entretien, le président de la République s'inquiète d'une crise d'autorité qui toucherait la politique mais aussi la science, référence évidemment à la crise du Covid dont il souffre personnellement. Il dénonce un nivellement qui crée du scepticisme, engendre de l'obscurantisme, du complotisme. Concernant le virus d'ailleurs, il le dit, le deuxième confinement est un exemple d'efficacité car nous avons pris la décision au bon moment. Enfin pour la suite, Emmanuel Macron promet action, cohérence et explication et comme pour dresser une feuille de route des 18 prochains mois, il affirme que les Français peuvent reprendre le contrôle de leur vie. Ça passe notamment par une Europe de projets pour tenir face aux États-Unis et à la Chine.
Et on en parlera de l'Europe des projets dans un instant avec Sylvain Kahn, notre invité. Dans cet entretien, Jean-Rémy, on sent qu'Emmanuel Macron regrette d'avoir été, comme il le dit, mal compris et pourtant il n'hésite pas à aller sur les sujets qui peuvent fâcher.
Oui, Emmanuel Macron l'affirme d'ailleurs dès le début de cet entretien. Il a parfois été mal compris. Quand j'ai dit que nous étions un peuple de Gaulois réfractaires, je m'incluais dans les Gaulois réfractaires, dit-il à notre consoeur de l'Express. Il a mis du temps quand même à nous faire cette petite confession. Il revient aussi sur un fait de campagne de 2017. À l'époque, il dit qu'il est caricaturé. On a dit que j'étais un multiculturaliste, ce que je n'ai jamais été. Mais comme souvent, Emmanuel Macron tente d'éteindre certaines polémiques en lançant au passage de nouveaux foyers. Il dénonce une société de l'émotion, victimaire et émotionnelle, plaide une nouvelle fois pour la complexité du monde. Il refuse d'effacer, de déboulonner. Il reconnaît qu'en homme blanc de moins de 50 ans, il jouit d'un certain privilège. Enfin, il trouve absurde que le penseur d'extrême droite Charles Maurras ne puisse plus exister. Il affirme que l'intuition de Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale était bonne. Bref, c'est difficile de tout résumer, c'est un long entretien, mais justement, il est peut-être utile de le lire dans la longueur. Mais voilà une rapide liste de tous les points sur lesquels les opposants d'Emmanuel Macron ne manqueront pas de polémiquer.
Eh bien, vous nous avez donné envie de le lire, c'est déjà ça pour ceux qui ne l'auraient pas déjà lu. Merci beaucoup Jean-Rémy Bodeau du service politique d'Europe 1. On a appris hier soir le démantèlement d'un très vaste réseau de fraudes au VTC. Vous savez, ce réseau de véhicules de transport privé, des fraudes repérées autour du très juteux marché de courses de l'aéroport de Roissy. Fraudes sociales et fiscales et qui, à l'arrivée, pouvaient, Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1, rapporter très gros.
Et oui, sur un an, les sociétés concernées, toutes dirigées par des gérants de paille, auraient empoché 5 millions d'euros au moins. Le bénéfice des courses directement versé sur les comptes en banque des entreprises et puis blanchi dans la foulée. Des revenus, évidemment, non déclarés au fisc, soit un manque à gagner estimé à près de 3 millions d'euros pour les finances publiques. Fraude fiscale donc, mais aussi fraude sociale, puisque les centaines de chauffeurs n'étaient pas déclarés à l'URSSAF. Ils étaient recrutés via des petites annonces sur des sites spécialisés. Et c'est au détour d'un simple contrôle de routine que ce réseau a pu être identifié par des policiers spécialisés. Ils ont repéré une fausse carte VTC. Ils ont ensuite enquêté pendant près d'un an et ont interpellé 4 personnes en fin de semaine dernière en Seine-Saint-Denis, dont un homme, la tête de ce réseau, un ancien banquier d'affaires. Les enquêteurs ont aussi retrouvé des montres de luxe pendant leur perquisition. 4 hommes donc seront jugés au mois de mai prochain pour blanchiment et travail dissimulé en bande organisée. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant. Ils risquent chacun 10 ans de prison et 750 000 euros d'amende.
Le tribunal de commerce de Nanterre a validé il y a quelques instants l'accord financier passé entre Mediapro, le diffuseur du foot de la Ligue 1 en France, et la Ligue de football professionnel française. La Ligue qui récupère donc ses droits, qui va tenter de trouver un nouveau repreneur. Mais Cyril de la Morinerie, vous avez suivi ces audiences, le foot français sera loin de récupérer toutes ses billes.
Oui, alors c'est vrai que c'est un soulagement pour le foot français qui récupère ses droits, soit 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2 contre un chèque de 100 millions d'euros. Mediapro a d'ailleurs versé les 3/4 de cette somme, un accord obtenu dans l'urgence pour éviter un terrible marathon judiciaire pour la Ligue. Eh bien, ce fiasco Mediapro représente un manque à gagner tout de même immédiat de plus de 200 millions d'euros. Désormais, les dirigeants du foot français vont chercher un diffuseur, soit à travers un nouvel appel d'offres, soit en discutant de gré à gré avec les acteurs du marché. Tous les regards se tournent évidemment vers Canal+, le diffuseur historique qui s'est senti humilié et qui ne fera pas de cadeau. La chaîne cryptée pourrait récupérer la Ligue 1 contre un chèque d'un peu plus de 600 millions d'euros, plus 100 millions d'euros en fonction du nombre d'abonnés. Outre Canal+, la Ligue pourrait sonder également Bein Sport, mais aussi les GAFA comme Amazon. Pendant cette période d'incertitude, la chaîne Mediapro continuera de diffuser les matchs avant sa fermeture définitive, avec une date butoir fixée au 31 janvier.
Avec la trêve qui arrive entre-temps, et ça tombe bien, merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Allez, il nous reste à voir le temps du jour. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour François.
Il vaut mieux être aujourd'hui dans le sud que dans le nord. Hein.
Oui, puisque au nord de la Loire, nous avons effectivement un temps automnal. De la Bretagne à l'Alsace, c'est pluvieux, avec sur la Normandie, la Bretagne et les Ardennes des pluies beaucoup plus soutenues. Sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, le vent souffle en rafale jusqu'à 60 km/h. Sur le Poitou-Charentes, le Limousin et le Massif central, là, le ciel est encore couvert, mais nous aurons des éclaircies. Et puis plus au sud, vous le disiez, c'est agréable. En Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, au bord de la Méditerranée et en Corse, eh bien là, le soleil brille dans un ciel légèrement voilé. C'est le printemps, avec des températures toujours plus douces. 12 à Dunkerque, 13 à Metz, 14 à Lille et Nice, 15 à Marseille et Paris, 16 à Lyon, 18 à Toulouse et 19 à Pau. Les températures vont baisser pour le jour du réveillon.
Je vais corriger une petite erreur formulée hier. Je parlais de l'hiver calendaire, 21 décembre, et l'hiver météorologique. Rappelons que l'hiver météorologique, c'est bien le 1er décembre.
1er décembre, pour les météorologues, jusqu'au 1er février. Et l'hiver solstice, c'est du 21 au 21 mars.
Merci beaucoup Anissa Dadi.
Europe Midi, François Claus.
Allez, restez bien à l'écoute. Dans un instant, l'invité d'Europe Midi, le Royaume-Uni coupé du monde, le spectre d'une pénurie alimentaire en Grande-Bretagne, d'une rupture de la chaîne de production en Europe, le tout à 5 jours de l'échéance d'un deal de plus en plus improbable. C'est l'un des grands spécialistes français des questions européennes. Le professeur Sylvain Kahn est avec nous.
Europe Midi, écoutez le monde changer. François Claus.
Bonjour Sylvain Kahn.
Bonjour François Claus.
Petit décalage lié à notre liaison, vous êtes professeur à Sciences Po, on lit vos publications régulières sur le site The Conversation, et vous avez co-écrit avec le géographe Jacques Lévy, Le pays des Européens chez Odile Jacob. On a appris il y a quelques minutes qu'Ursula von der Leyen et Boris Johnson s'étaient parlé au téléphone ce matin. Ont-ils parlé de la crise sanitaire? Ont-ils parlé du Brexit? Ont-ils parlé des deux? Question simple, Sylvain Kahn, est-ce que cette crise sanitaire joue comme un accélérateur de Brexit, ou est-ce qu'au contraire, elle peut susciter une prise de conscience dans les dernières heures d'un accord de plus en plus difficile?
Ce qui est sûr, c'est que elle montre aux Britanniques combien le fait de pouvoir être coupé du continent est une possibilité. Hein. Or, tout l'enjeu de l'actuelle négociation qui est entrée dans son ultime ligne droite, hein. Là, il est 23h58, hein. S'agissant des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur quel nouvel accord il va y avoir pour régler les relations d'un Royaume-Uni sorti de l'UE. Hein, on est tout à la fin, et là, les Britanniques sont en train de se rendre compte que, en n'étant plus dans l'Europe, ils peuvent être véritablement coupés complètement du continent. Et ça, évidemment, c'est très probablement de nature à les faire réfléchir.
Est-ce que vous diriez que cette crise sanitaire est utilisée de part et d'autre dans les négociations comme une forme de levier politique?
On ne peut pas l'affirmer. On peut pas le garantir, mais on peut pas s'empêcher d'y penser, François Claus, c'est sûr. C'est sûr que, évidemment, cette nouvelle variété du virus SARS-CoV-2, dont par ailleurs les autorités scientifiques européennes et britanniques ne sont pas complètement convaincus qu'elle soit la cause d'une accélération du nombre de cas constatés dans le sud du Royaume-Uni. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tous les cas, les pays européens, les gouvernements européens s'en sont servis pour dire « Oups, dans le doute, il vaut mieux fermer les frontières hein, ». C'était un peu sur un tout autre sujet, comme à l'époque de la crise de la vache folle, hein, quand on avait isolé le Royaume-Uni dans les années 90 au motif que ça pouvait être contagieux. Et le gouvernement de Boris Johnson, de son côté, se sert aussi de cette hypothèse, puisqu'il y a encore 3 jours, il excluait tout reconfinement en raison des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année. Et là, il prend prétexte de cette mutation du SARS-CoV-2 pour dire, finalement, il faut reconfiner. Donc c'est clair qu'il y a probablement une utilisation politique quand bien même elle est peut-être justifiée. Ça, évidemment, on ne le sait
on
pas
ne
encore.
Sait pas, on ne le sait pas encore. Mais c'est un jeu quand même extrêmement dangereux. Vous avez lu la presse anglaise de ces dernières heures. Il y a à la fois un déficit de confiance dans l'opinion vis-à-vis de Boris Johnson, qui semble, comme il l'a fait pour le vaccin, de s'y engager plus vite pour montrer « Regardez, je suis plus rapide que l'Europe, on fait mieux sans l'Europe ». C'est quand même, par rapport à ce risque sanitaire, une stratégie extrêmement dangereuse.
Ben, disons que ce qu'on a aussi entendu dans les toutes dernières informations qui nous parviennent, et notamment grâce aux excellentes radios, c'est que l'approvisionnement du Royaume-Uni en vaccins, puisque le Royaume-Uni a décidé une semaine avant les Européens de commencer la campagne de vaccination, cet approvisionnement, puisque les vaccins sont fabriqués en Belgique, n'est pas, menacé par l'interruption qui a été prononcée il y a maintenant près de 48 heures des flux de passagers venant du Royaume-Uni vers l'Europe. Hein. Donc ça veut dire qu'on sait aussi dans cette espèce de
bras de fer politique,
de relations coupées, ouais. De bras de fer politique et de relations coupées qui ressemblent un peu à un blocus. On sait aussi distinguer, on va dire, l'essentiel du tout venant.
Alors là, ça voudrait dire qu'on pourrait ouvrir la porte, parce que finalement une surprise de dernière minute du côté de la pêche, ça bloque. On a vu même la Royal Navy être mentionnée dans le débat pour venir protéger les eaux. Là aussi, il y a une part très très politique dans cette dernière ligne droite.
Ah ben ça c'est sûr. C'est sûr que la pêche, effectivement, c'est très très intéressant, comme c'était rappelé tout à l'heure sur votre antenne, par le fait que dans l'ensemble des relations économiques entre l'Europe et le Royaume-Uni, c'est quelque chose de vraiment marginal. Hein, mais par contre, ça a une valeur humaine, symbolique très très importante, notamment parce que en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Irlande, ça met en cause l'activité d'un secteur, le secteur de la pêcherie, et singulièrement des artisans marins-pêcheurs, pour qui pouvoir pêcher dans les eaux britanniques, c'est quelque chose de vital, hein, puisque ça peut représenter jusqu'à 80% des prises des marins-pêcheurs belges et jusqu'à 50% des captures des marins-pêcheurs bretons et 75% des captures des marins-pêcheurs des Hauts-de-France. Donc il y a un enjeu énorme.
Oui, il y a un enjeu, mon peuple, mon territoire. Ouais. Hein, c'est le thème de mon peuple, mon territoire qu'il faut défendre. Sylvain Kahn, je vous bouscule un petit peu parce que nous sommes toujours pris par le temps. Vous ne croyez pas, vous, au no deal qui vous paraissait improbable? Qu'est-ce qui peut, dans les quelques heures qui restent et compte tenu de la situation, faire qu'on évite ce no deal?
Disons, c'est sûr que personne n'y a intérêt. Voilà, c'est-à-dire que les conséquences d'un no deal, hein, le coût d'un no deal serait bien plus important, on va dire, que les concessions de dernière minute qui pourraient être faites de part et d'autre.
Alors, ça veut dire repousser la date.
C'est la raison. Ça me paraît le plus probable, hein. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on a déjà vues à la fois dans les négociations sur le Brexit depuis 4 ans et dans d'autres sujets de l'histoire européenne, c'est que, comme on dit dans le langage bruxellois, on arrête les horloges.
Hein bon, voyons si on les arrêtera une nouvelle fois à l'orée de 2021. Merci beaucoup, Sylvain Kahn, de nous avoir éclairé. Je renvoie donc à votre ouvrage « Le pays des Européens » chez Odile Jacob, coécrit avec Jacques Lévy.
Europe Midi, François Claus.
Dans un instant, le journal de 13h et puis la France qui bouge.